enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vais reprendre un texte qui va vous surprendre. Matthieu 14, versets 22 à 33. Mon frère Jean-Marie a prêché sur ce texte mardi soir. Et alors que j'étais assis à ma place, je disais à Dominique, il est en train de me piquer le message de dimanche. C'est donc avec une grande angoisse que j'ai suivi son exposé brillant. Par ailleurs, je vous recommande le CD de mardi soir qui, au niveau herméneutique, est une réelle leçon. Au niveau de l'interprétation, c'est une vraie leçon. Alors si vous aimez apprendre comment lire la Bible, comment l'interpréter, prenez le message de mardi soir, il est excellent. Moi ce matin, je vais faire une entorse à l'herméneutique. Je vais faire une entorse à la méthode d'interprétation. Je vais utiliser ce texte, mais comme prétexte pour arriver à un autre but. Pardonne-moi, Jean-Marie. Je sais que je te fais honte là. Je sais que je deviens ton plus mauvais élève. Mais ça me fait quand même plaisir de le faire. Le texte va s'afficher sur l'écran. Je ne vais pas vous le commentez longuement, vous le connaissez, c'est le texte dans lequel les disciples se retrouvèrent dans la barque, prise en pleine nuit au milieu d'une tempête, Jésus viendra et marchera sur les eaux. Il n'y en a pas un ici qui ignore ce récit. Mardi, nous l'avons vu dans différents évangiles, et ce matin, encore une fois, je vais l'utiliser, mais comme prétexte. Au verset 26, il nous est dit, « Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent, « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Et mon thème ce matin sera « Libre de nos fantômes ». Cela peut vous surprendre comme thème, mais ce sera le thème que je vais développer avec vous, libre de nos fantômes, de ces fantômes qui peuvent terroriser. Évidemment, je sais que je fais une entorse à l'herméneutique, je sais que j'utilise là un texte pour en faire un prétexte, mais vous allez comprendre pourquoi je le fais. Ils furent, en voyant cela, saisis de terreur, dit l'Écriture. Qu'est-ce que la terreur? Un sentiment de peur incontrôlée qui annihile la volonté. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes pris par la terreur, vous êtes incapable de réagir normalement. Vous ne réagissez plus comme vous devriez le faire. Il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus de recul. Vous êtes tétanisé. Vous êtes terrorisé. Et ils le furent parce qu'ils interprétèrent être un fantôme. Évidemment, nous savons que c'était Jésus. Mais là, dans la tempête, dans le contexte dans lequel on est, si ce matin un peintre inspiré devait dessiner le tableau, je l'imagine sombre, je l'imagine houleux, je l'imagine angoissant. Dans cette situation angoissante, les voilà, voyant en plus de cela, quelqu'un qui vient marchant sur l'eau. Excusez-moi, ce n'est pas habituel. Ce n'est pas tous les jours que vous marchez sur l'eau. Faites les essais, vous le constaterez rapidement. Je vous l'ai déjà dit, à la piscine, moi j'ai fait l'essai. Philippe, toi qui es à Lilleberg tout le temps, essaye. J'ai pris un élan, j'ai couru. Mais aussi vite que possible, parce qu'on m'avait dit que lorsqu'on court vite, l'inertie nous permettait de marcher, même sur l'eau. J'ai couru et j'ai marché au fond de la piscine. Je sais donc aujourd'hui, de manière très scientifique, puisque j'en ai fait l'expérience, que naturellement, vous ne marchez pas sur l'eau, mais sous l'eau. Et je comprends qu'il soit terrorisé au moment où il voit Jésus qui vient, lui, marchant sur l'eau. Alors, pourquoi furent-ils terrorisés? Là est la question. Eh bien, voyez-vous, il y a une explication. Pour des marins juifs, voir un fantôme, d'ailleurs pour les juifs en général, était présage de malheur. Et un fantôme sur l'eau était un signe avant-coureur de naufrage, d'où leur frayeur. Leur frayeur n'est pas venue de n'importe où. Ils savaient qu'un fantôme était annonciateur d'une catastrophe. Et pour eux, en l'occurrence, d'un naufrage. En d'autres mots, dans la situation où ils étaient, à 3h le matin, en plein milieu du lac de Génézareth, c'était la mort. Et là, la Bible nous dit qu'ils sont terrorisés. En méditant sur ce texte, je me suis rendu compte que bien souvent, dans les tempêtes de nos vies, nous aussi, nous sommes parfois terrorisés, mais pas les fantômes du passé. Une situation déjà vécue, qui là tout d'un coup se représente à nos yeux, et qui nous angoisse, nous paralyse, parce qu'elle nous a déjà fait souffrir. C'est une situation, c'est une personne, c'est une parole, qui tout d'un coup peut faire ressurgir en vous le passé. Qu'est-ce qu'un fantôme, si ce n'est quelqu'un qui a existé, et qui maintenant, eh bien, réapparaît. Sous une forme immatérielle, je vous l'accorde, mais il réapparaît, et avec lui, réapparaît tout ce qu'il a pu signifier pour celui qui le voit. Réapparaît tout ce qu'il peut signifier pour celui devant lequel il apparaît. Ainsi en est-il souvent dans nos vies, différentes situations, différents problèmes. Paroles, autres, comme je viens de le dire, peuvent tout d'un coup faire ressurgir en nous le passé comme un fantôme, et à ce moment-là nous terroriser et nous décourager. Et cela, chers amis, également dans l'Église. Et cela au milieu des chrétiens, ici ou sur le net. Je n'ai pas peur de me tromper ce matin. Après 20 ans de ministère, je sais de quoi je parle. Je sais et je vois combien de croyants sont hantés par le passé, poursuivis par ce dernier, terrorisés parfois, paralysés dans leur capacité de progresser avec Christ. Et les voilà soudain retournés dans d'anciens schémas. Et les voilà soudain retournés en arrière parce que leurs fantômes les hantent. En fait, ils n'en ont jamais été guéris et ils n'en ont jamais été libérés. Ce matin, je ne vais pas parler des fantômes de notre passé au travers de mille et une situations, mais je vais en cibler un. Un d'entre eux qui fait des dégâts dans les églises. Un qui complique les relations, autant conjugales que fraternel, l'un d'entre eux qui complique la vie dans l'église et dans les églises. Je voudrais vous parler ce matin du rejet. Le rejet qui souvent dans la vie de beaucoup de personnes n'a pas été réglé, il n'a pas été résolu, il n'a pas été guéri. Il n'attend qu'à se représenter à vous, il n'attend qu'à vous angoisser à nouveau, il n'attend qu'à ressurgir comme un fantôme qui revient du passé. Premier point, le rejet. Les origines du rejet. Vous le savez, je le sais, l'être humain a un besoin fondamental, celui d'être aimé. L'être humain et l'être vivant tout court. On a fait des essais avec des lapins. Je ne vous compare pas, des lapins. Mais l'on a mis des lapins dans une cage ensemble, dans laquelle on les nourrissait banalement avec des épluchures et ce qui venait. Et puis l'on a pris 5 autres lapins que l'on a séparés, isolés les uns des autres, mais à qui l'on a prodigué les soins les meilleurs. La meilleure des nourritures, l'atmosphère la plus agréable, cependant aucune communication, ni avec un être humain, ni avec un animal. Eh bien, ces 5 lapins ont commencé à maigrir. Et alors qu'ils avaient un traitement bien meilleur que les autres en apparence, ils sont morts tous les 5, alors que les autres ont grossi et ont pris de l'assurance. De l'assurance pour devenir un civet, bien sûr. Toute personne privée d'amour ou de reconnaissance dès son enfance est exposée au rejet. Toute personne privée d'affection est exposée tôt ou tard à ce danger de voir, même dans sa vie chrétienne, si les choses ne sont pas réglées, ce fantôme réapparaître. Comment le définir, le rejet ? Eh bien, pour mettre des mots sur ce qui est souvent une émotion, un sentiment, il se traduit par le sentiment d'être indésirable. Vous désirez être aimé et vous avez constamment le sentiment, eh bien, d'être de trop. Vous désirez être intégré, accepté, pourtant vous avez constamment le sentiment d'être en marge. Et malgré tous les efforts que vous faites, l'exclusion vous semble être, eh bien, une fatalité. Ça, c'est tout ce que vous pouvez éprouver au plus profond de vous-même. Alors, suivant les cas, l'expérience que vous avez faite du rejet peut être totalement anecdotique, c'est-à-dire ne pas avoir eu un grand impact sur votre vie. Mais il se peut également qu'il ait eu un effet dévastateur, c'est-à-dire qu'il ait détruit votre personnalité en fabriquant une nouvelle personnalité dépendante simplement et contrainte par le rejet qui s'impose à elle un peu comme un dictateur. Ce matin, j'aimerais vous donner quelques exemples malheureux, mais souvent fréquents de rejet. Je ne vais pas m'étendre trop longuement, mais on vous a laissé par exemple de côté à cause de votre physique. Et nous sommes dans une société très exclusive. Si physiquement vous êtes un peu différent, vous n'avez aucune chance. Ce sera cruel pour vous. Et cela commence dès l'école maternelle. J'ai vu les enfants se moquer d'autres enfants. Je me souviens, moi, avec horreur aujourd'hui, je le regrette, avoir eu une fille dans ma classe qui avait un problème à un œil. Son œil partait du côté. Et tous, et moi y compris, nous l'appelions la sorcière. Mais quelle douleur pour cet enfant. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai déjà dit, Seigneur, je te demande pardon. Et si un jour je la croise, j'irai la voir et je lui dirai, pardonne-moi de t'avoir traité de cette manière-là. Un physique différent, c'est peut-être, eh bien, la couleur de votre peau qui a créé le rejet. Rappelez-vous, nous venons de fêter l'anniversaire de la mort de Martin Luther King il y a peu de jours. C'est encore très proche, le temps où aux États-Unis était, eh bien, noté dans bien des endroits interdit aux Noirs. C'est il y a peu d'années, que l'on rejetait encore les gens pour leur couleur de leur peau, qu'on les parquait dans des endroits. Il a fallu des hommes comme Luther King et d'autres qui aient le courage de résister, de braver, pour qu'enfin, enfin, on en arrive à une norme. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose à tous mes frères et sœurs africains ce matin. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si les Blancs ont réagi comme ça, c'est parce qu'ils avaient peur. Le racisme n'est qu'une preuve de peur. Peur que l'autre soit aussi bon que toi. Le racisme cherche à inférioriser un autre être humain comme toi. Mais c'est une preuve de faiblesse et de fragilité. Ceux qui sont forts savent intégrer ceux qui sont différents d'eux parce qu'ils savent qu'ils sont leur complément. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs africains ce matin, arabes et autres, moi j'ai besoin de vous. Et je suis heureux et fier de vous avoir avec nous. Parce que quand vous êtes là avec tous les blancs, ça fait café au lait le dimanche matin. Et quand le Seigneur vient, il rajoute le sucre. Mes amis juifs, ici ou sur les écrans, Juden verboten. Et aujourd'hui encore, le juif en France, auquel et pour lequel j'ai une grande estime, eh bien, souvent marche la tête baissée, a peur de décliner ses origines juives. Je connais des juifs qui ont peur de décliner leurs origines, de peur à nouveau d'être rejetés, rejetés parce qu'on leur a collé des étiquettes, rejetés parce que on leur impute tous les maux du monde. Vous savez, il y a eu des fléaux au Moyen-Âge. Et seuls les juifs, eh bien, n'étaient pas malades. Résultat des courses, on a accusé les juifs d'avoir empoisonné la population, on les a poursuivis pour les exterminer. Alors finalement, que s'ils étaient en bonne santé, c'était uniquement parce qu'ils suivaient la Torah et l'alimentation selon la Bible. C'est ce qui les avait préservés des fléaux qui touchaient les autres, qui mangeaient tout et n'importe quoi. Mais on les a accusés, rejetés. Si je me laisse aller sur ce sujet-là, je pourrais aller très loin, je veux m'arrêter. Mais à mes amis juifs, je veux dire que nous vous aimons et que vous êtes précieux pour nous. Des anecdotes plus simples, banales à l'apparence, mais douloureuses. Vous avez fait partie d'une équipe sportive, peut-être de foot, de basket. Et puis vous vous êtes entraîné régulièrement. Vous n'étiez pas le meilleur, loin de moi, vous deviez être comme moi. Mais vous vous entraîniez régulièrement. Et le samedi arrivé, vous étiez sur le banc de touche. Et quand un gosse est sur le banc de touche, le moment le plus important, c'est quand on va lui dire « Entre, à toi d'y entrer !» Et là, vous avez attendu. Et c'est le premier carton. Et c'est le deuxième carton en basket. Et le troisième carton. Et puis vous finissez le quatrième carton. Et vous vous rendez compte que celui qui n'était pas venu à l'entraînement a été appelé alors qu'il vient, qu'il saute des entraînements, qu'il n'est pas là régulièrement, il n'est pas sérieux, mais il est meilleur que vous et on le prend à votre place. Quelle souffrance. Dernièrement, je parlais avec Bertrand. Il n'est pas là ce matin. Il me dit, tu peux pas savoir. J'ai fait partie enfant d'une équipe de football. Alors j'allais à tous les entraînements, je me donnais beaucoup de peine. Et puis, dans les matchs, j'attendais là sur le banc de touche. Et je me disais, ça y est, ça va être mon tour. Il dit, et les matchs ont passé les uns après les autres, et le championnat s'est terminé, sans que jamais j'ai le droit de rentrer pour jouer. Un jour, un de mes propres fils a vécu ça, et j'étais justement au match. En tant que père, vous ne pouvez pas savoir ce que ça vous fait. Et comme je ne suis pas père à me taire, je pense que vous me connaissez un peu maintenant. Même si on me dit d'aimer mon prochain, je pense que le fait qu'il sache parfois ce que je pense, ça, c'est une forme d'amour. Et je voyais mon gosse assis là sur ce banc, et je voyais le match qui se déroulait, et elle prenait tout le temps les autres, et tout le temps les mêmes, et puis en particulier ses deux fils, etc. Le match s'est terminé, le gamin était assis. Le père s'est levé. Je suis allé voir l'entraîneur. Je lui dis, dites donc, est-ce qu'on vous a enseigné un minimum de psychologie? Est-ce qu'on vous a dit ce que ça faisait comme effet dans le cœur d'un gosse lorsqu'on le négligeait et on le laissait alors qu'il est fidèle et qu'il fait beaucoup d'efforts? Est-ce que on vous a jamais enseigné là-dessus? Je lui ai dit, écoutez, madame, parce que bien sûr... C'est pas de ma faute. Je peux pas vous dire que c'était un homme. Je lui dis, écoutez-moi, madame, ne convoquez plus jamais mon fils si c'est pour le laisser sur le banc. Je préfère qu'il s'amuse bien à la maison, dans la rue, avec son ballon, qu'à être là, à espérer sans jamais pouvoir être intégré. Depuis, il joue. Mais il joue aussi parce qu'il est devenu bon, hein. Certains d'entre vous, vous n'avez pas eu ce papa qui vous a défendu. Certains d'entre vous, vous étiez sur le banc de touche et il n'y avait personne. Et parce que vous étiez seul, personne ne s'est jamais occupé de vous. Le rejet. Roger, sur votre lieu de travail, vous avez fait votre boulot comme il fallait. Restructuration, après 25 ans de bons et loyaux services, hop, au chômage. On ne vous donne pas d'explication. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça se fait ? Je me suis donné de la peine, j'étais jamais en maladie. Vous regrettez presque toutes les fois où vous n'avez pas un peu aidé la sécu à se soulager. Ce que d'ailleurs vous ne devez pas faire. C'est très bien. Vous avez été victime d'abus sexuels, si vous saviez les dégâts que ça fait. J'avais un jeune homme en Suisse. Au moment où je prie avec lui, des démons l'ont quitté. Et il me dit, vous savez, pasteur, moi le mercredi, je l'avais en horreur. Parce que le mercredi soir, mon père, qui était ancien d'une église, eh bien me violait régulièrement. Il dit, alors Dieu, alors les chrétiens, alors les églises, j'avais dit, le jour où mon père meurt, j'irai cracher sur sa tombe. Et je me sentais rejeté. Je me sentais ne plus être quelqu'un comme les autres. Je sentais ne plus pouvoir m'intégrer. J'avais l'impression que c'était écrit sur moi. J'étais pétri de haine et rempli de démons. Que Dieu soit béni, il l'a libéré. Roger, lié à vos parents, à vos frères, vos sœurs. Vous savez, être le chouchou des parents, c'est pas toujours un avantage, hein? Lisez l'histoire de Joseph. Vous devenez le chouchou du père et vous êtes rejeté des frères et sœurs. C'est pas toujours un avantage, mais il se peut aussi que ce matin, vous ayez été rejeté de vos propres parents. Vous vouliez une fille et c'était un garçon. Inversement, rejeté. Peut-être que certains se sont retrouvés à l'orphelinat, abandonnés. Ah, il y a ceux qui sont à l'orphelinat parce qu'ils n'ont pas de parents. Il y a ceux qui ont été abandonnés. C'est difficile d'expliquer à un enfant pourquoi il est dans une maison. Avec des enfants qui n'ont plus de parents alors qu'il sait qu'il a des parents. Que se passe-t-il ? Pour lui, lorsqu'un être aimé qui lui est cher commence à son sens à lui échapper, il devient malade. Il se sent en danger, c'est les fantômes du passé qui remontent. Et dans sa tête, il se dit, si mon père et ma mère ont pu m'abandonner, alors qu'est-ce qui me garantit que celle-ci ou celui-là sera fidèle ? Et les voilà rattrapés par le passé. Et les voilà conditionnés par le passé. Et les voilà hantés par le passé. Et les voilà terrorisés par le passé. Conditionnés par le passé. Le rejet, je m'arrête là. Je voudrais simplement donner une petite précision. Une pensée qui me vient au sujet de David. David, le roi David. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à David. Mais moi, j'ai le sentiment que David a vécu le rejet. Et je vais vous dire pourquoi j'ai ce sentiment. Sans avoir de preuves formelles, implacables, au niveau herméneutique, correct. Professeur, on se voit demain matin. Il dira au psaume 51, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vous croyez que moi j'ai idée d'aller dire que ma mère m'a conçu dans le péché ? Ça poserait des problèmes à mon père ce matin. Ça explique peut-être pourquoi, lorsque le prophète Samuel arrive chez Isaïe dans sa maison et lui dit « Présente-moi tes fils », bizarrement, le père en oublie un. Dites donc les pères qui êtes là, ça vous arrive d'en oublier un ? Moi, on viendrait en me disant, Monsieur Peter Schmidt, on va choisir le futur président de la République. Au milieu de vos quatre fils, au milieu de vos fils, j'en oublierai aucun. Tous les quatre seraient au garde à vous. Il n'y en a pas un que j'oublierai. Si j'oublie un fils, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que je ne le considère pas forcément comme mon fils. Et puis, il y a Eliab qui le traite avec beaucoup de dédain. Lorsqu'il arrive, il lui dit « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que t'es descendu. » Encore une fois, rejet de la part de son frère. Et puis plus tard, il va connaître 15 ans de rejet. 15 ans pendant lesquels Saül va le poursuivre pour le tuer. 15 ans de rejet, 15 ans de fuite. Et voilà ce qui revient comme un leitmotiv dans les psaumes. « Ne m'abandonne pas. » Éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Ne m'abandonne pas, éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Reste là, ne pars pas, D'autres sont partis, d'autres m'ont laissé, d'autres m'ont abandonné. Ne pars pas. Sa prière, sa requête, ne m'abandonne pas. Lisez les psaumes, vous verrez. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, ne t'éloigne pas. Reste là, reste là, reste là. Conséquence du rejet. Le rejet va produire trois sortes de personnes. Excusez-moi, cette montre me stresse. Hein. C'est pour ça que j'aime l'Afrique. Les frères en Afrique me disent... Vous avez la montre, mais nous on a l'heure. Non, vous avez l'heure, mais nous on a la... Et voilà, et voilà, et voilà, les signes de vieillesse arrivent. Vous avez la montre, mais nous on a le temps. Deuxième point, conséquence du rejet. Première sorte de personne, la personne qui s'y soumet comme une fatalité. Ces personnes ont un discours simple. Ma vie sert à rien. Personne ne m'aime. Je ne peux plus le supporter, elle est trop dure. Va naître un comportement de cela. La solitude, vous allez volontairement chercher l'isolement parce que quand vous êtes seul, au moins, personne ne vous rejette. Et il est évident que personne ne peut vous rejeter parce que vous êtes seul. Vous êtes replié sur vous-même. Deuxième point, la pitié de soi. Vous allez trouver cela tellement injuste que vous allez passer votre temps à faire le culte de la victime. Et c'est terrible. Constamment, intérieurement, vous allez nourrir cela. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que j'ai pas le physique des autres? Ou pourquoi est-ce que j'ai pas le quotient intellectuel des autres? Parce qu'aujourd'hui, le rejet se fait également énormément sur votre quotient intellectuel. Même si je voudrais bien qu'on me définisse clairement ce que ça veut dire, quotient intellectuel. Parce qu'on peut être intelligent dans un domaine et bête comme ses pieds dans un autre. Donc il faudrait qu'on me définisse ce que ça veut dire. En sortant de l'école, on a des bulletins. C'est bien d'évaluer, mais quand ça devient discriminatoire, c'est pas toujours juste. Alors, je passe. Je ne suis pas là en train d'exorciser mes frustrations, hein. J'en vois déjà qui se disent, ben oui, avec ce qu'il avait comme problème à l'école, il est en train de régler ses comptes. C'est pas ça. Lorsque vous faites partie de ces premières personnes, vous vous dépréciez. Vous vous dépréciez. Je ne vaux rien. Je suis rien, je me sens bête, je me sens incapable. Vous récitez cela. On vous propose de faire quelque chose, vous dites non, je peux pas. Mais vous avez perdu la bataille avant d'avoir essayé, vous n'avez même pas essayé. Déjà, vous êtes convaincu que vous n'y arriverez jamais. Et puis ça engendre dépression, désespoir, et puis c'est recours parfois dans la déprime. À la drogue, pas forcément la drogue avec de la cocaïne, c'est tous ces calmants que vous prenez à longueur de journée. Ça peut être la drogue, c'est peut-être l'alcool, et puis pour certains c'est terrible, parce que leur dernier refuge c'est le suicide. Puisque personne ne m'aime, puisque je ne vaux rien, puisque ma vie n'a pas de sens, pourquoi exister ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi se battre ? Pour qui ? Pourquoi ? Vous avez pu éprouver le rejet dans un divorce. Et je me souviendrai toujours, j'avais été confronté à cela en région strasbourgeoise. Le mari qui a été trahi, un chrétien, trahi par un autre chrétien. Et disparaîtra, on le retrouvera pas, on nous passe un coup de fil, on ne trouve plus monsieur un tel. Et on l'a retrouvé dans l'écluse du Rhin. Il n'a pas supporté le rejet de celui ou de celle qui était censée être la plus proche. Deuxième type de personne. Évidemment, nous pourrions aller dans les détails, j'ai pas le temps matériel, pardonnez-moi. Mais je veux que cela vous aide à avoir des pistes de réflexion. Les personnes qui y résistent. Alors elles y résistent comment? Eh bien elles y résistent en bâtissant une réaction de défense, mais non agressive. C'est-à-dire que c'est juste une devanture. C'est juste quelque chose qui leur permet de vivre. Je prends un exemple. Elles chercheront à résister au rejet en se faisant accepter à tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire à tout prix? Ça veut dire que vous avez l'apparence d'avoir une personne très généreuse, toujours prête à rendre service. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours prête à rendre service. C'est que par peur d'être rejetée par vous, elle vous rendra toujours service. Elle sera toujours prête à vous rendre service. Non pas par bonté, mais parce qu'inconsciemment, elle a peur que vous puissiez ne plus l'apprécier, ne plus la recevoir. J'ai vu des personnes qui ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non par peur d'être rejetées. J'ai vu des jeunes femmes, écoutez bien, manipulées sexuellement. Elles me disaient, « Pasteur, je ne peux pas lui dire non s'il veut coucher avec moi. J'ai peur qu'il me rejette. » Et moi, je leur ai dit, « Mais s'il te rejette, c'est qu'il te vaut, c'est qu'il te mérite pas. Il te mérite pas. Il te mérite pas. Arrête de te donner. Parce que de toute manière, il va te jeter, c'est sûr. Je te le garantis, le jour où il envoie une autre, il te jette. N'y imagine pas parce que tu te donnes qu'il va te garder. Non, il va te consommer. Et une fois qu'il en aura marre, il en prendra une autre. S'il te prend pas, si tu te refuses à lui et il part, alors loue le Seigneur et dis bon débarras. Mes sœurs, changez de mentalité. Jeune fille, écoute un vieux qui a un peu d'expérience. Si le type te dit couche avec moi ou je fiche le camp, dis-lui bon débarras mon coco, tu me mérites pas, je mérite mieux. Là. Change! Combien donnent sous contrainte? Combien se donnent sous contrainte? Rendre service sous contrainte? Se donner et donner, c'est juste. C'est biblique d'être serviable. Mais attention, quand c'est la conséquence d'une souffrance, quand c'est la conséquence d'un fantôme dont vous avez peur qu'il vienne réapparaître dans votre vie, et que vous le faites uniquement pour être accepté, pour être aimé, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. J'ai rencontré une fille de chirurgien, genevoise, suissesse. Le père, réputation mondiale. La fille voyait rarement le papa. Elle vivait déjà pas trop bien cela. Mais écoutez ce qu'elle me disait. Elle me disait, pasteur, pour que je... D'abord, à cause du statut de mon père, tout le monde a peur de moi. Et je suis tout le temps seul. Et elle me disait, vous savez, pasteur, pour avoir des copines, pour me faire des copines, je faisais quelque chose. Chaque fois que nous allions à l'école, je leur portais leur sac. Comme ça, j'avais des copines. Et c'est comme cela qu'elle avait des copines. Et elle me dit, plus tard, je suis allé à l'université. Moi, j'avais une femme brisée en face de moi, brisée en petits morceaux. Plus tard, elle me disait à l'université, pour que je ne sois pas seul, pour que j'aie une amie, eh bien, j'offrais mon repas de midi à cette personne. Alors, elle a été mon amie toute l'année. Et aux vacances, elle ne me connaissait plus. Il n'y avait plus de repas. Vous êtes manipulable lorsque vous souffrez du rejet. Souvenez-vous du corbeau et du renard. Je ne vais pas vous demander de le réciter, je sais que vous la connaissez par cœur, vous me l'avez déjà faite. Fable de La Fontaine. Le corbeau, le renard a bien compris qu'il était assis sur la branche. Il l'a manipulé. Et quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous savez qu'il est manipulable. Oh lui, je peux toujours lui demander, il me dira jamais non. Pourquoi savez-vous qu'il vous dira jamais non? Parce qu'il est bon? Non! Dernièrement, une sœur vient dans mon bureau. Elle me dit, j'en ai marre. Trop bonne, trop? J'ai rien dit. C'est vous, hein? Ah, c'est pas moi, hein? Seigneur, c'est pas moi, c'est eux. Voilà. Vous pensez pas que le corbeau, il a eu le même sentiment sur sa branche? Pensez pas? De La Fontaine connaissait pas encore cette expression. Mais c'est sûrement le sentiment de frustration qu'il a eu. Écoutez bien ce que ça donne. Vous vous donnez et vous agissez pour vous faire aimer. Vous voulez mériter l'amour des autres. Mais soudain il n'y a pas de retour. Soudain le retour escompté n'est pas là. Résultat des courses. Votre sentiment d'avoir été utilisé, manipulé, eh bien vous fait souffrir. De surcroît, votre sentiment de rejet augmente encore. Et vous en arrivez au stade où vous vous dites, puisque c'est comme ça, je ne ferai plus rien. Je ne ferai plus rien. Écoutez, parents chrétiens qui êtes là. Parents chrétiens qui êtes là. Est-ce que vous me laissez continuer un peu? Moi, j'en peux rien. Je prêche une fois toutes les 3 semaines. Ça vous fait 20 minutes par semaine. Il y a déjà une sœur qui s'endort, ma sœur, bonne nuit. Écoutez. Enfant de chrétien, jeune fille chrétienne, arrivée à l'école, bon, en étant jeune fille chrétienne, les parents l'habillaient dans un style, je vais pas dire un style chrétien, ça n'existe pas, j'espère. Mais parfois on a l'impression que chez certains il y a un style chrétien, vous savez, hein? T'as le gamin et il a honte de sortir. Moi j'aimerais dire aux parents ce matin, surtout n'essayez pas d'en faire des chrétiens dans l'apparence. Moi j'en ai un, il venait à un moment donné, bien sûr, ça m'enchantait pas, avec des pantalons collectifs. Bon, attendez, il m'en arrive une bonne. J'ai mes outils dans la cave et ma femme m'a mis mes vêtements de travail. Parce que j'ai des vêtements de travail. En dehors de ça. Bien. Et puis je rentre là, je prends mes vêtements de travail, je mets mon jean à plâtrie, et puis je vais dans mes tomates pour nettoyer les mauvaises herbes. Et je me disais, nun da pukel die Hose ist groß. Alors je me suis dit, Sam, t'as maigri. J'étais tombé sur un pantalon collectif. Et c'est moi qui me promenais dans la rue avec cette espèce de truc. Vous savez, on a l'impression que vous avez la chiasse, hein? Chaque fois que je passais devant, parce que j'ai des blocs maintenant, enfin, chaque fois que je passais devant, il fallait que je sorte. Mes parents, s'il vous plaît, n'en fabriquez pas des... Moi j'ai dans ma famille, du côté de mon père, on leur interdisait de mettre un pantalon. Alors quand elles allaient au sport, elles mettaient un jogging et une robe par-dessus. Mais vous vous rendez compte de la souffrance des filles? Waouh. Ma sœur, Michel. Parce qu'à l'époque, on se maquillait pas non plus, hein. Tu te souviens, papa Jean? Non, parce que c'est toi qui nous a comme ça, hein, Yaya. Alors elle était marrante. Elle prenait le... Elle allait jusqu'au coin de la rue, tournait le coin de la rue, elle sortait le... Et au retour au coin de la rue... Et pourtant, t'étais sûr que tu faisais bien, hein? Cette jeune fille, parce qu'elle n'était pas acceptée, est devenue punk. Elle se scarifiait. Et quand je l'ai vue, elle était en psychiatrie. Et elle m'a dit, j'en veux à mes parents. Je dis, pourquoi? Parce qu'à cause d'eux, j'ai été rejeté à l'école. Jamais. J'étais toujours là avec mes petits chemisiers à froufrou, là. Enfin, je sais pas comment vous dites, là, les petits trucs. J'avais un tel style. J'avais un tel style qu'on aurait dit un martien quand j'arrivais dans la cour. Et les autres me rejetaient. J'avais pas d'amis. Alors je m'en suis faite. Et puis je vous assure, quand elle s'en est faite, c'était les cheveux noirs comme les ténèbres. C'était des pins partout. C'était. Ouais, je savais plus comment dire. Des piercings. Voilà. Ça c'est le syndrome du papa Jean qui me poursuit. On peut, par notre manière d'éduquer nos enfants, leur poser des problèmes de rejet. Alors on leur dit, petit, sois fort, sois fier. Ouais, mais c'est pas vous qui êtes dans ces habits et puis à l'école, hein. Parents, je dis pas laissez-les faire n'importe quoi. Non, je ne dis pas cela. Mais faites attention à ne pas les marginaliser. N'en faites pas des marginaux. Et puis, vous avez la personne qui devient rebelle. Ça, c'est le troisième type. Alors, l'ordre dans lequel les réactions s'enchaînent, rejet, amertume, haine, rébellion, ces personnes-là vont traduire leur souffrance autrement, par de l'agressivité. Elles se sentent souvent menacées de perdre ce qu'elles ont. Elles sont constamment en rivalité, doivent prouver qu'elles sont capables de faire quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines. Je suis capable de créer quelque chose avec mes mains. Je suis capable de construire. Et ils veulent montrer à leur père, à leur mère qu'ils les ont rejetés parce qu'ils pensaient tout le temps que c'est un nul, qu'ils sont capables de faire. Et ils passent leur vie à s'éreinter à faire pour montrer aux autres qu'ils existent. Ils ont souvent besoin d'être le premier, d'être vu. Dernièrement, je rencontre une jeune femme. Et écoutez ce qu'elle me disait. C'était dans le Bas-Rhin. Je préfère prendre des exemples du Bas-Rhin. Elle me disait, pasteur, quand moi j'ai une amie, elle ne peut plus être l'amie de quelqu'un d'autre. Elle m'appartient. Écoutez bien ce qu'elle va me dire. Jusqu'à où ça va? Elle me dit, vous savez, quand mon amie est à côté de moi et que son téléphone portable sonne 3 fois pendant que chez moi il ne sonne pas, j'ai le sentiment qu'elle est aimée alors que moi je suis rejeté. Et elle va plus loin. Elle disait, elle ne supportait pas que son ami parle avec quelqu'un d'autre. Dès qu'elle voit son ami parler avec quelqu'un d'autre, elle angoisse parce qu'elle se dit, elle risque de me la voler. Elle me disait, pour moi, entendre que mon ami a fait une sortie, une marche par exemple, avec des copains-copines, sans m'y convier, ça me rend malade, mais malade jusqu'à en vomir. Parce qu'elle est à moi. Je ne comprends pas qu'elle puisse être encore l'amie de quelqu'un d'autre. Une forme de jalousie et de possessivité qui vous détruit. Et c'est la conséquence du rejet. J'ai tellement peur que tu partes, que je te tiens, et jamais je ne te lâcherai. Quelle est la finalité de tout ça? La finalité, c'est que vous allez perdre votre ami, vous allez perdre vos copains, vous allez perdre votre frère et votre sœur dans la foi. Pourquoi? Parce que votre relation est tellement inconditionnelle et fusionnelle qu'elle est oppressante et étouffante. L'autre ne vit plus, il se sent votre prisonnier. Quel est le réflexe naturel d'un prisonnier? S'échapper. Résultat, vous vous retrouvez seul et vous êtes encore plus sûr que personne ne vous aime. Votre sentiment de rejet est encore plus profond. Mais ça, j'aimerais vous dire que c'est pas seulement dans l'amitié, c'est jusque dans le couple. Et parfois, la vie de l'un devient un enfer. Nous avons besoin de voir Dieu guérir les cœurs. J'ai besoin de voir Dieu guérir les cœurs. J'ai besoin de savoir que Dieu guérisse ton cœur. Sans quoi, tôt ou tard, confronté à nouveau à du rejet, ton fantôme va ressurgir. Tes réactions vont revenir. Ton conditionnement antérieur va être le même. Maintenant, comment guérir du rejet? Je ne vais pas m'étendre trop longuement, mais j'aimerais être là systématique pour que vous ayez des points précis. Je vais être très systématique. La première étape consiste à reconnaître que vous avez ce problème-là. On ne peut pas soigner un alcoolique avant qu'il reconnaisse qu'il boit. On ne peut pas aider une personne qui souffre du rejet avant qu'elle reconnaisse « Je souffre de cela », avant qu'elle ait le courage de se l'avouer, de le dire « C'est vrai, je souffre de cela ». Deuxième point, que Jésus soit toujours votre modèle. Je m'adresse là à des chrétiens ce matin. Pourquoi ai-je parlé de fantômes ? Parce que normalement, ils ne devraient pas ressurgir dans vos vies. Mais je me rends compte qu'ils ressurgissent. Parce qu'ils hantent, ils hantent ce que vous êtes. Et ils ont un accès, parce que ce n'est pas guéri. Ésaïe 53, verset 1 à 12, vous le lirez. Comme une brebis menée à la boucherie. Comme une brebis menée devant celui qui la tond. Il a été rejeté de tous les hommes. Il a accepté d'être rejeté pour toi, pour moi, jusqu'au stade où il s'écrit dans Matthieu 27, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ va se faire rejeter afin que toi, tu ne sois plus jamais rejeté. Il va porter ton rejet afin que toi, tu ne souffres plus le rejet. Il va s'identifier à toi jusque-là. Il le fait pour que tu n'en portes pas les conséquences. Et il est là ce matin. Souvent, on présente le Christ suspendu à une croix avec un joli drap. Mais moi, j'aimerais vous dire que je crois que Jésus était suspendu, nu sur la croix. On l'a livré à la honte. On t'a livré à la honte, peut-être. Mais il a porté la honte et l'ignominie à ta place. On t'a humilié, certainement. Et j'en suis malheureux pour toi. Mais lui a été rejeté, on lui a craché dessus. On l'a insulté. On l'a suspendu là, nu, sur une croix. Le Fils de Dieu. Il n'avait qu'une chose à faire, appeler les anges, et c'était réglé, il le dira. Il pouvait appeler 12 légions d'anges, et c'était terminé. Il ne le fera pas, parce qu'il portera ta peine, afin que toi tu ne portes plus cette dernière. Troisièmement, acceptez ce que Dieu dit sur vous. Il est le médecin de votre âme. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Éternel, tu es mon médecin. Tu me guéris. Quatrièmement, laisse le Saint-Esprit t'aider à identifier comment et où tu as été blessé du rejet. Si tu pries, l'Esprit de Dieu te montrera la voie à suivre. Si tu pries, il te montrera exactement où se trouve ton problème. Le diable cherche souvent à mettre ton problème ailleurs que là où il se trouve, de manière à ce que tu cherches la solution ailleurs que là où elle est. Lui va te ramener là, là où ça a commencé, là où tu as eu mal. Cinquièmement, pardonne. Pardonnez à la personne ou aux personnes qui vous ont fait du mal. Pardonner, ce n'est pas facile, c'est un acte de volonté, c'est un acte, c'est une décision. Ce matin, ce que je dis là, je le dis avec gravité. Ce n'est pas facile, c'est lourd. C'est difficile, suivant ce qu'on a fait, de pardonner. Quand on t'a violé à 5 ans, c'est pas facile de pardonner. C'est pas facile quand ça a pourri ta vie. Mais en Christ, tu as la possibilité de le faire. C'est pas facile quand ta femme ou ton mari est parti. C'est pas facile. Mais en lui, tu peux le faire. Il te donnera la force et il aura la patience qu'il faut. Sixièmement. Abandonne les fruits destructeurs du rejet, amertume, apitoiement, rébellion. Septièmement, accepte que Dieu t'a adopté comme son enfant en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu peux dire « Je suis enfant de Dieu ». Et le dernier point, acceptez-vous maintenant vous-même. Arrêtez de construire votre identité rien qu'en fonction de ce que les autres pensent ou ne pensent pas de vous. Bien que j'ai une remarque, et j'ai une remarque que mon fils m'a faite, je vous la livre. Le penseur grec Aristote disait « L'homme est un animal social. » Notre identité se construit automatiquement vis-à-vis des autres, c'est une certitude. Parents, jeunes gens qui venaient de vous marier, vos enfants construiront leur identité par rapport à vous, par rapport à leur entourage. On ne peut pas dire que quelqu'un grandit de manière neutre. Il s'est influencé. Aristote, à ce niveau-là, avait raison. L'homme est un animal social. Ceci dit, au contact de l'autre, l'esprit de l'homme s'affine. L'essentiel n'est pas l'avis des autres sur nous, parce que parfois ils ont un avis qui est juste et ça vaut la peine de les écouter. Cela nous change. Par contre, l'essentiel, c'est de choisir qui sera ton référent. Avec qui tu seras. Le premier en qui tu places ton identité, c'est Christ. Ensuite, cherche des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui peuvent, eh bien, te dire la vérité dans l'amour. Qui peuvent t'aider à guérir, t'aider à progresser. Ils existent et ils sont nombreux. Ils existent et ils sont nombreux. Vous savez, on dit ce proverbe, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » C'est une réalité. Ceci dit, ce matin, Dieu vous a donné une église avec des frères et des sœurs. Ne cherchez pas quelqu'un de blessé comme vous qui vous conforte dans votre état. Cherchez des hommes, des femmes qui sont guéris. Des hommes et des femmes qui peut-être par la grâce de Dieu n'ont pas eu ce problème-là. Et qui pourront être pour vous des frères, des sœurs. Qui pendant un temps chemineront dans la prière, dans l'exhortation. Afin de vous aider à sortir de ce que vous êtes. Qui vous aideront à vaincre vos fantômes. Et je termine, c'est ma conclusion, fermons nos yeux, pendant que mon frère Bernard vient au piano. Merci pour votre patience. Votre identité en Christ. Je répète encore une fois, votre identité est en Christ. Répète-le dans ton cœur maintenant, mon identité est en Christ. Vous êtes une merveilleuse créature. Quoi qu'on ait dit de vous et quoi que l'on vous ait fait, il n'empêche et il ne demeure que vous êtes une merveilleuse créature. Vous êtes la créature la plus complexe qui existe sur la surface de la terre. Et ce n'est pas votre physique qui définit si vous êtes une merveilleuse créature. Le seul fait que vous soyez un être humain, c'est une créature extraordinaire. Dieu seul pouvait faire cela. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et ce matin, j'aimerais qu'elles soient vaincues, les choses anciennes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant que vos yeux sont fermés, écoutez maintenant une série de déclarations que je vous fais. J'ai réfléchi dessus, j'étais seul dans ma chambre. Et je vous les livre, simplement. Vous n'existez plus en réaction au rejet. C'est-à-dire que ce n'est plus le rejet qui vous fait fonctionner ou agir. Vous n'agissez plus pour être accepté et reconnu. Deuxièmement, vous êtes libre de l'esclavage de la reconnaissance. Troisièmement, non pas que vous n'ayez pas besoin de reconnaissance, tout homme a besoin de reconnaissance. Mais quand tu en es esclave, alors c'est un asservissement. Troisièmement, vous êtes fort parce que vous ne dépendez plus de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que Dieu pense de vous. Quatrièmement, vous donnez. Et vous vous donnez parce que vous avez décidé de le faire pour le Seigneur. C'est une décision. C'est pas une contrainte. C'est pas pour quémander de l'amour ou de la reconnaissance. C'est une décision. Vous n'êtes plus dépendant d'un retour puisque vous le faites pour le Seigneur. Cinquièmement, le succès des autres, leur réussite n'est plus un danger pour vous, mais une joie. Ils ne sont plus des rivaux pour vous. Ils sont des frères et des sœurs desquels vous êtes fiers. Septièmement, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Huitièmement, vous n'êtes plus en train de servir les hommes, mais Dieu au travers des hommes que vous servez. Et je termine. Ce matin, tu vas redresser ta tête. Vous êtes en position de force et d'autorité. Vous démontrez que vous êtes riche, puisque vous pouvez donner. Je crois que Dieu m'a donné ces paroles pour vous ce matin. C'était seul dans ma chambre, mais je crois qu'elles sont pour vous. Vous êtes en position de force et d'autorité. Vous démontrez que vous êtes riche, puisque vous pouvez donner. Vous ne donnez pas par dépendance et besoin de reconnaissance, mais parce que vous avez décidé de le faire par amour pour le Seigneur. On ne vous arrache pas les actes de générosité, on ne vous manipule plus, mais c'est librement que vous le faites. Jésus a dit que personne ne lui prend sa vie, il la donne. Ni les Juifs, ni les Romains ont été plus forts que lui. Tout en mourant sur la croix, il est en position d'autorité face à eux parce qu'il donne sa vie. Ils ne la lui ont pas arrachée, ils n'ont pas réussi à lui arracher puisqu'il l'a donnée. Cette position lui permet alors de dire avec force, pardonne, leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand vous êtes dans cette attitude, les gens peuvent vous trahir, vous abandonner. Vous ne fléchissez pas, vous n'arrêtez pas parce que vous agissez pour Christ. Vous êtes en position d'autorité, vous pardonnez en disant, Seigneur, ils ne savent ce qu'ils font. Vous ne laissez aucune emprise au diable et il ne peut vous arrêter dans la marche. Et cette dernière phrase, ce matin, vous chassez le fantôme du rejet et vous reconnaissez Christ qui vous permet de marcher sur l'eau, là où vous pensiez jamais ne pouvoir marcher parce que le rejet vous en privait. Vous allez faire ce matin des pas dans l'impossible. Ce qui était impossible pour vous, inimaginable, devient possible. Ce de quoi le rejet vous a privé pendant des années, ce que vous ne pensiez pouvoir devenir, là où vous disiez je ne suis pas capable, ce matin, à la place et au lieu du fantôme se présente Jésus qui te dit viens, viens, marche maintenant. Tu peux marcher sur ce qui te semblait impossible, ce qui te semblait être de l'eau dans lequel tu vas t'enfoncer. Moi je vais le rendre solide pour toi. Viens. Père, nous sommes là devant toi. Et ta présence nous fait du bien. Je veux louer ton saint nom, Seigneur. Pour cette assistance, pour les internautes, pour tous ceux et celles qui sont venus ce matin, que tu vas aider à guérir. Il y aura peut-être des guérisons miraculeuse ce matin à ce niveau-là. Des gens libres immédiatement. D'autres, le Saint-Esprit va commencer à travailler votre cœur. Vous allez peut-être commencer à vivre un moment où vous pleurez, où vous souffrez intérieurement. Une repentance également par rapport à tout le mal que vous avez pu faire. Mais c'est l'Esprit qui le fait. D'autres, vous allez rencontrer un frère, une sœur qui vont être pour vous ce bon samaritain qui ne passe pas à côté du blessé du chemin mais qui s'arrête, qui le charge sur sa monture, qui l'emmène dans l'hôtellerie, qui veille à ce qu'on prenne bien soin de lui, qui paye la facture jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Que son nom soit béni. Seigneur, visite les cœurs. Il y a là une sainte présence de Dieu, je ressens cette présence. C'est plus qu'un silence ce matin, c'est sa présence. Restez encore un moment dans le recueillement pendant que mon frère continue à jouer. Tu peux jouer plus fort. Pendant qu'il joue, priez. Priez au plus profond de vous-même. Et vous qui n'avez jamais été rejeté, dites Seigneur, j'ai appris une grande chose ce matin. C'est que mes actes et mon comportement peuvent blesser mortellement des hommes et des femmes autour de moi. Il y a deux leçons ce matin. Une leçon pour aider ceux qui sont blessés à s'en sortir. Et une leçon pour ceux qui n'ont jamais été blessés et rejetés de ne pas produire au travers de leur attitude et leur comportement, le rejet. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Continue à jouer, mon frère. Et moi, je termine. Pendant qu'il joue, pendant que vous priez, à lire ce merveilleux texte d'Ésaïe. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il le fait ce matin. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Celui qui a été humilié et rejeté a été élevé à la droite de Dieu et règne pour l'éternité. Comme tu as été abaissé et rabaissé, il saura te guérir et te relever. Levons-nous ensemble et terminons en chantant ce chant. Seigneur, tu es là. Fa encore une fois. Oh, dites-lui, Seigneur, tu es là. Ne vous déplacez pas rapidement. Terminez tranquillement. Terminez tranquillement. Seigneur, tu es là. Donne la main à ton voisin, à ta voisine. Formons cette famille. Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Laisse-toi aimer de Jésus. Laisse ses bras t'entourer ce matin. Laisse son esprit te consoler. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Comme le paralytique guéri, comme le boiteux à la porte du temple, je veux te louer, comme le boiteux qui est entré en sautant et en dansant. Dis-lui, Seigneur, tu me guéris et je veux te louer. Tu me guéris du rejet et je veux te louer, t'adorer. Tu es là, Seigneur. en chantant Alléluia. En d'autres mots, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Tu es là, Seigneur. Alléluia. Et notre âme le reconnaît par ta présence. Que les boiteux dans l'âme marchent au nom de Jésus. Que ceux qui sont paralysés par les fantômes de leur passé se lèvent aujourd'hui et marchent en homme libre et en femme libre pour la gloire de ton nom. Raccompagne-nous dans nos demeures. Donne-nous d'être ces ustensiles dans ta main. Nous te le demandons. Amen. Soyez bénis.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.